I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant que vous écoutiez cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu Au Revoir Podcast ces dernières semaines en faisant un don sur la plateforme Tipeee. Merci à Mélanie, Julien, Raphaël, Laurence, Julie. Merci à Héloïse, Sophie, Stéphanie, Fanny et Julien. Si vous souhaitez soutenir Au Revoir Podcast, dont tous les épisodes sont gratuits et en libre accès, vous pouvez vous aussi faire un don libre sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com/au-revoir-podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour donner plus de visibilité à Au Revoir Podcast, vous pouvez également partager les épisodes autour de vous et mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Plus de visibilité pour Au Revoir Podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Merci énormément pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute.
Sur les coups de 6 heures, on nous bascule en chambre d'accouchement, puisqu'on est en salle de travail. Où là, on nous dit, bon, maintenant, madame, il va falloir accoucher. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va vous soulager, puisque la péridurale, on n'avait pas droit à la péridurale et les autres, parce qu'il y a quand même une gestion de la douleur avec de la morphine, avec ce genre de choses, mais qui était clairement pas à la hauteur de la douleur qu'avait Camille. Et où là, du coup, on bascule, donc en salle de travail, et on se met en mode accouchement. Et où là, en fait, c'est là où je me suis effondré. À partir du moment où, ok, ça devenait, là c'est l'accouchement. Donc Camille m'a regardé, elle m'a dit, t'es prêt à accueillir Héloïse ? Non, mais a priori on n'a pas le choix. Donc voilà. Et là, j'ai commencé à pleurer beaucoup. Et c'était très très dur pour moi à ce moment-là. J'étais un peu en mode robot. Pendant toute la nuit, il y avait des points d'acupression à faire, ça je gérais, ok, je faisais des choses quoi, enfin je faisais les allers-retours pour la bouillotte, je faisais ce genre de choses, donc ok, j'étais un peu dans l'action. Et oui, à partir du moment où du coup la poussée est arrivée, là je me suis effondré, enfin j'étais là pour Camille, mais c'est là où j'ai switché et où ça a été très très dur. Et donc du coup Camille pousse et Héloïse arrive. Un moment d'apaisement pour Camille, du coup, de voir sa fille, de la serrer contre elle, de passer un peu de temps avec elle, quoi. Et moi aussi, c'était bien sûr très douloureux, mais j'avais ma fille dans les bras quand même.
Quand on est un couple et qu'on attend un enfant, cet enfant, on l'attend à deux. Alors certes, il y a la personne qui porte le bébé, la personne dont le corps tout entier vit au rythme de cette grossesse, et puis il y a celle qui l'attend, cet enfant, qui d'une certaine manière attend, littéralement. Quand on ne porte pas le bébé, on l'attend, mais on ne fait pas que l'attendre. On apprend à devenir son parent, son papa, dans le cas de Gauthier que vous venez d'entendre. On trouve petit à petit ses marques, on esquisse les contours de ce nouveau rôle, on apprend des gestes qui permettent déjà d'entrer en contact, on touche du doigt ce que c'est la parentalité. Il y a la personne qui ressent tout depuis l'intérieur de son corps, et puis il y a celle qui fait l'expérience de la grossesse avec le toucher, depuis la paume de ses mains, le bout de ses doigts, déposé à la surface du ventre. Il y a les mouvements ressentis de l'intérieur et ceux ressentis depuis l'extérieur, de part et d'autre, de la peau maternelle. Les petits coups de pied et les vagues lorsque les doigts parcourent le ventre. Ce petit corps qui vient se lever tout contre les mains lorsqu'elles se déposent, comme si elles appelaient le bébé. On fait connaissance sans même se voir. L'affection se transmet à travers des gestes, des caresses, la vibration de la voix. Et quand c'est la déflagration, que tout s'arrête, qu'on doit encaisser un diagnostic et faire des au revoir, c'est bien souvent à deux qu'on les fait. Et encore une fois, il y a la personne qui porte le bébé, qui vit le drame au plus profond d'elle-même. Il y a cette seconde personne qui est à côté, qui est là. Mais on n'est pas seulement spectateur, en fait. On peut être aussi acteur de ce moment pour lequel on n'a pas de repère. C'est en fait le saut dans l'inconnu pour deux personnes. Deux personnes qui ne pourront jamais vivre les choses de manière identique. Pendant la grossesse, on se construit peu à peu, en tant que parent. Et quand le pire est arrivé et qu'il y a tout à reconstruire, il faut aussi se reconstruire. Alors, on touche du doigt une autre parentalité, une autre paternité, dans le cas de Gauthier. Au revoir podcast, épisode 39. Gauthier. Être le papa d'Héloïse. Dans cet épisode, c'est la voix de Gauthier que vous allez entendre. Gauthier est en couple avec Camille depuis une dizaine d'années, mais tous les deux ils se connaissent depuis bien plus longtemps. Et puis entre eux, c'était une évidence qu'un jour, ils auraient un enfant ensemble.
On s'est mis ensemble donc à 20 ans. On a passé de belles années ensemble, 10 ans. Au bout de nos 10 ans, on s'est mariés. Et on s'est dit, après le mariage, ben voilà, en fait, ça y est, on a envie de passer ce cap. Donc, on a mis en marche, du coup, le projet bébé. Et effectivement, Camille est tombée enceinte très rapidement au premier cycle. Et oui, fausse couche, ben, prématurée, ça, au bout d'un mois, effectivement, une fausse couche. Alors, moi, sur le coup, c'était très rapide. Donc, du coup, j'ai même pas eu le temps, en fait, d'intégrer que Camille était enceinte, que, en fait, le projet s'arrêtait. Donc, on a été décalé. Ou ça a été compliqué pour elle dès le début. Il y a la notion de corporalité, de le sentir dans son corps. Alors que moi, c'est quand même, oui, effectivement, pour un homme, c'est beaucoup plus abstrait. Et ça a été quelques temps après, en fait, une semaine ou deux après l'annonce de la fausse couche, où il y a eu un truc de c'est pas pour cette fois. Et on connaît les statistiques et on sait que. C'est 1 sur 3, je sais plus quels sont exactement les chiffres, mais on le savait. Mais même si on le sait, quand on le vit pas, effectivement, un projet qui se coupe et une envie qui du coup est retardée. Moi, je suis quelqu'un qui voit plutôt le positif dans les épreuves déjà de base. On a une grande résilience avec Camille, donc du coup, moi, je me suis focalisé sur le positif qui était. Alors oui, forcément, ça n'a pas marché, mais nous deux, ça marche. Donc du coup, a priori, on n'a pas trop de difficultés à ce niveau-là.
Rassurés de ne pas avoir de problème de fertilité, Gauthier et Camille envisagent une nouvelle grossesse. Les mois passent, 9 plus exactement, avant que le test soit à nouveau positif. Durant les premières semaines, le couple se montre prudent, bien conscient qu'un nouvel arrêt spontané peut se renouveler. Cette fois-ci, la grossesse se poursuit.
Premier écho, ça se passe très bien, tout va bien, et donc du coup... chouette, ok, on commence les réjouissances. Et la deuxième écho, donc on avait la chance d'être suivi par un sage-femme échographiste, très humain. Moi, j'y suis allé à cette deuxième écho, hyper détendu, on avait fait ça entre midi et deux. Moi, du coup, entre le boulot, j'étais parti un peu plus tôt, j'avais des choses l'après-midi, donc vraiment en toute détente, quoi. En fait, on allait passer un bon moment, on allait voir notre bébé. Et donc à cette écho, donc il commence son examen, très bien, il parle, enfin il nous raconte ce qu'il fait, et puis au bout d'un moment il parle plus. Mais il continue d'examiner, puis on le voit un peu froncer les sourcils. Puis bon, il se passe 5 minutes, puis c'est long 5 minutes, sans parler. Et là il nous annonce, donc du coup il nous dit, donc oui c'est bien ça. Alors effectivement, vous ne me voyez pas parler depuis 5 minutes, c'est parce que je regardais quelque chose, et effectivement, c'est quelque chose qui doit être confirmé, mais je détecte une hernie diaphragmatique. Ok. Oui, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous, on n'a pas compris sur le moment. Donc il nous a dit, c'est une malformation rare, sévère. D'accord. Ok, bah toujours on comprend pas en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il voyait qu'on comprenait pas, donc il nous a dit, ce que je vous dis est dur. Ah, ok. Donc là, ça commence à tilter. Là, il y a eu un truc de, ah oui, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc là, il nous a dit donc l'examen va s'arrêter là. Et il va falloir que vous soyez suivi par une référente au CHU. Parce que moi, ça s'arrête là. Enfin, moi, mes examens s'arrêtent là. Ce que je vous dis, c'est dur, effectivement. Et donc, nous, on commençait à poser des questions, mais en même temps, pas trop, parce qu'on comprenait vraiment, on comprenait pas, quoi. On dit, mais ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la grossesse? Est-ce que ça continue? Ça continue pas? Et là, il commence à me dire, ben, ça va dépendre. Oui, ça peut être effectivement un arrêt de grossesse, comme ça peut ne pas l'être. Mais moi, ça, mon expertise s'arrête là. Et vous allez être suivi, du coup, ailleurs. C'est quand même important d'être entouré de professionnels de santé qui sont un peu humains, parce qu'on a eu la chance d'être hyper bien encadré rapidement. Donc du coup, lui avait fait les démarches auprès du CHU pour qu'on soit vu en urgence. Le lendemain, on avait le rendez-vous, donc on n'est pas resté dans un flou très longtemps.
Avant de poursuivre, je vais vous expliquer ce qu'est l'hernie diaphragmatique en reprenant les mots de l'APEDIA, l'association pour encourager la recherche sur l'hernie diaphragmatique. Il faut savoir que c'est d'abord une maladie rare. Elle touche 1 à 5 naissances sur 10 000. L'hernie diaphragmatique est en fait due à une formation incomplète du diaphragme pendant la grossesse. Et le diaphragme, c'est en fait ce muscle situé entre le thorax et l'abdomen. Le principal problème est le suivant. À cause de ce trou dans le diaphragme et en fonction de sa taille, des organes de l'abdomen peuvent remonter dans le thorax. Le développement des poumons peut donc être compromis. Comme le rappelle l'association, toutes les grossesses sont différentes et tous les cas d'enfants atteints d'hernie diaphragmatique sont médicalement différents. D'ailleurs, le médecin explique à Gauthier et Camille que certaines hernies, diagnostiquées en fin de grossesse, sont considérées comme légères, tandis que d'autres sont au contraire extrêmement sévères et ne permettent pas au bébé de vivre. Et entre ces deux cas, il y a une zone grise, c'est le flou. L'hernie est considérée comme modérée. C'est ce qu'on constate d'ailleurs sur le bébé de Camille et Gauthier. Mais il faut envisager un suivi strict pendant la grossesse et une prise en charge particulière à la naissance de l'enfant, ainsi qu'une opération. Gauthier et Camille doivent encaisser la nouvelle et envisager une vie qui n'était pas celle qu'ils avaient imaginée pour leur bébé et pour leur famille.
C'est un train qui nous passe dessus. Parce que donc on commence à poser des questions dans le cadre de cet échange, à comprendre, essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ça impliquait. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ben, les premiers temps de vie de cet enfant allaient être très compliqués. Très compliqués, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ben, dans les heures de la naissance, dans les premiers jours, du coup, ce bébé va devoir être opéré. Pourquoi? Parce que ben, il faut remettre les choses au bon endroit s'il y a des choses qui sont pas là où ça devrait être et refermer le trou du coup du diaphragme. Donc du coup voilà, on commence à intégrer un peu ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ok, donc parcours de vie compliqué, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Enfin oui, ça va être chaud, ça va être forcément très compliqué, mais il y a une lumière. Ok, on commence un peu à comprendre. Mais oui, on a pris ça comme un énorme train qui nous est passé dessus. En l'espace de 3 jours, je suis passé de futur jeune papa assez centré sur le travail. Tout ça a explosé en vol. Puisqu'on commence à nous expliquer que du coup les premiers temps de vie vont être très compliqués, que la première année de vie va être compliquée et que ce serait bien qu'il y ait un des deux parents qui ne travaille pas pendant au moins la première année de vie. Donc du coup un décentrage complet sur bah, les années qu'on avait prévues. Donc du coup voilà, on commence à intégrer ça, mais oui, c'était des phases de très compliquées. Alors nous déjà on a fait le choix de se faire suivre psychologiquement dès l'annonce en fait. Parce qu'on en avait besoin, tous les deux. On avait besoin aussi d'extérioriser ça et de pas de donner du sens parce que ça n'a aucun sens. La maladie n'a aucun sens. Essayer d'accepter ça au mieux. Moi, je m'arrête quelques jours, parce qu'il fallait que je reprenne un peu mes esprits. Camille, pareil. On commence donc du coup à rentrer dans ce parcours. Et c'est là où on est quand même très, très, très content d'être en France, avec un système social français. Et où du coup, c'est quand même un soulagement du coup d'être aussi hyper entouré. Donc du coup, le CHU, là où on est, donc à Nantes, est référent dans la région. Donc on rentre, on est hyper encadré. C'est-à-dire, on fait nos examens, on sort des examens, on passe par le secrétariat, et on nous dit, OK, lundi prochain, 11h, vous avez rendez-vous avec machin à telle date. C'est hyper encadré. OK, donc ben on va dérouler, du coup, puisqu'a priori, il y a un protocole, donc on va dérouler ça. On commence un peu à se dire, OK, ça va être dur, mais ça va le faire. Un peu plus tard, du coup, donc on a appris la hernie, et à l'examen d'après, on s'était dit, bon, OK, garder le sexe secret jusqu'à l'instant, ça va être un peu dur. Là, il va y avoir un peu trop d'inconnus. Donc on va peut-être se dire, OK, quel est le sexe, parce qu'on a besoin aussi pour l'encourager, de commencer à identifier un peu cet enfant. J'ai un souvenir hyper vif d'être c'était une sage-femme, du coup, et on lui demande du coup quel est le sexe, et on se tient la main avec Camille, et on dit c'est un fœtus féminin. Et alors là, mais un sourire, un bonheur infini, qui est venu en moi, un sourire béat que j'ai gardé pendant 48 heures, à me dire, ouais, je suis papa d'une petite fille. C'est ouf. Et donc du coup, voilà, on continue les examens, on rentre dans un parcours, voilà, où toutes les semaines on y était, et on passe les étapes. Ok, donc première étape, pour évacuer l'option est-ce que c'est génétique, on fait une amniocentèse. Donc c'est pas forcément l'examen le plus fun de tous les temps, mais ok, on passe cet examen, ok, check, ça c'est bon, c'est pas génétique. J'étais là à tous les rendez-vous, et il y a certaines interventions sur lesquelles je pouvais pas être là. Ben, l'amniocentèse par exemple, j'ai attendu dans la salle d'attente, mais j'étais là à tous les rendez-vous. C'était hyper important pour moi, et puis en fait c'était même pas un sujet, c'était comme ça quoi. Et oui, c'était en plein Covid, du coup, qu'on a appris ça. Donc ouais, c'était 2021, janvier 2021. Donc c'était encore les phases où, pour être deux dans un examen médical, c'était à l'autre bout de la pièce. Enfin voilà, on avait aussi l'experte du sujet hernie diaphragmatique, et pas quelqu'un de très chaleureux. Mais c'est une experte hyper pointue. Donc les examens étaient compliqués avec elle. Donc c'était pas, déjà il y avait la nouvelle du coup qui était compliquée à intégrer, et ce diagnostic qui a été hyper hyper dur à encaisser. Mais en plus il y avait ce manque de chaleur humaine un peu, et je me rappelle très bien du premier examen du coup qui veut pour confirmer le diagnostic, où déjà on est arrivé dans la pièce, elle nous a dit, alors monsieur vous allez vous mettre sur la chaise dans le coin là-bas, madame vous allez vous allonger. Et je me rappelle de Camille, du coup, qui me regardait avec son masque, bien sûr, on avait tous les masques à l'époque, en train de pleurer, parce que je pouvais pas être là et lui tenir la main, et c'était, voilà, c'est des choses qui sont assez dures. Puis de manière générale, enfin, même dans la grossesse en général, le papa est quand même un peu plante verte, dans tout ça. On parle assez peu au père. Alors, après, je peux l'entendre, mais du coup, oui, je suis le second rôle, mais vraiment plante verte, quoi, figurant. Mais c'est pas grave, je suis là quand même, je suis là pour Camille, et c'est le plus important.
Après l'annonce du diagnostic, les examens se succèdent. En février et mars 2021, Gauthier et Camille voient leur semaine rythmée par les rendez-vous. Des échographies sont réalisées régulièrement, confirmant le fait que l'hernie sera bien opérable et reste modérée. Ils rencontrent le chirurgien, qui opérera leur fille, qu'ils ont décidé de prénommer Héloïse. Ils visitent aussi le service de réanimation néonatale. En fait, ils prennent leur marque, se préparent à devenir les parents de cet enfant qu'il faudra accompagner autrement à la naissance. Car pour le moment, tout va bien. In utero, Héloïse se développe à son rythme. Et Gauthier est impatient de créer des liens avec elle. Il s'investit pleinement d'ailleurs dans des séances d'aptonomie. L'aptonomie permet, à travers notamment des gestes au niveau du ventre de la mère, d'entrer en contact avec le bébé.
Donc l'aptonomie, la science du toucher affectif, c'était hyper important pour nous, voilà, dans ce parcours, et encore plus. En fait, on avait des amis qui l'avaient fait, et moi je me disais, bah ouais, ça peut être chouette, en tant que papa, à un moment donné, essayer de connecter à cet enfant, essayer de faire un lien avec cet enfant, même pendant la grossesse. Donc du coup, dès le début, en fait, on avait fait de l'aptonomie. C'était lui envoyer le maximum d'ondes pour lui dire, mais ouais, on est là, et ça va aller, et ça va le faire. Très souvent, le soir, c'était séance d'aptonomie, puis coach, quoi, ouais, ça va le faire. Voilà, on commence vraiment à se mettre, ok, en mode bataille, quoi. Ça va être dur, mais ça va le faire. Et il faut qu'on se prépare au mieux pour ça. Et on était aussi hyper entourés, on avait prévenu nos familles, bien sûr, de la situation. Et on recevait plein de trucs hyper mignons. Ma sœur, notamment, on avait expliqué à ma sœur que quand on reboucherait le trou de l'hernie diaphragmatique, le tissu, en fait, qui serait utilisé pour reboucher le trou, c'est le même tissu qui est envoyé pour dans l'espace, qui fait les combinaisons des cosmonautes, enfin, bref. Et ma sœur, qui est très branchée astronomie, tout ça, nous avait du coup fait un dessin avec un petit cosmonaute. Elle nous avait fait un petit truc comme ça, une carte, en disant bah oui, en fait, comme elle va avoir un truc de la NASA pour boucher son trou, ben moi je la vois comme une cosmonaute. Et donc du coup voilà, on a été aussi hyper entourés. Tous les jours, je pensais à elle et j'essayais de lui donner le maximum d'amour. Et aussi, on avait beaucoup de rendez-vous médicaux, donc toutes les semaines, on avait un rendez-vous pour elle, donc ce qui rythmait vachement nos journées et nos vies. Donc le lien se faisait aussi là. Nous, systématiquement, avant les examens, on lui passait des petits messages. Je faisais de l'aptonomie pour lui dire allez, ça va le faire. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de créer du lien, du coup, avec cet enfant. Et puis on était une famille et ça allait le faire, en fait. On allait être là l'un pour l'autre et on va tout faire pour que ça aille. Donc du coup, ouais, mode bataille, quoi. Déterminé comme, j'ai jamais été déterminé comme ça. C'est dur et ça va être sport, mais ça va le faire. Et on s'était donné les moyens pour que ça le fasse.
Après le choc de l'annonce, les semaines qui s'égrènent permettent de retrouver de l'espoir. C'est ainsi que Gauthier et Camille vivent les premiers mois de l'année 2021. Mais le 19 avril, cependant, tout s'écroule une seconde fois. Camille ne sent plus le bébé, la petite Héloïse, bouger. Aux urgences de la maternité, le couple est pris en charge par une interne. Il n'y a plus d'activité cardiaque. Le cœur d'Héloïse s'est arrêté.
Ça s'anticipe jamais, mais encore plus dans notre situation, on s'était jamais dit que ça pouvait être un sujet. Et du coup on dit ok, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe, donc c'était l'interne, donc elle dit il faut que quelqu'un vienne pour confirmer le ce que j'ai vu. Et donc nous on attendait, du coup ok, et moi j'étais encore dans l'espoir de c'est l'interne, il y a quelqu'un d'autre qui va nous dire que ça va, en fait. Bon, là et donc on attend 3 minutes 5 minutes, c'est quand même un peu long. Et donc la docteure arrive et là elle nous annonce, donc elle fait la échographie, elle me dit, et donc elle confirme, non, il n'y a pas d'activité cardiaque chez votre bébé, il n'y a plus d'activité cardiaque. Et là forcément le monde s'effondre, parce que c'était tellement pas dans notre réalité. On s'était tellement préparé à ce que ce soit dur à la naissance et pas pendant la grossesse, que c'était le monde qui s'écroule sous nos pieds, quoi. Un peu ça, toujours. Et j'ai cette sensation de tomber, de vide infini, quoi. Et donc là je me tourne vers Camille, et on pleure tous les deux, et là en fait elle a même pas attendu qu'on digère la nouvelle, la doc, elle a commencé à nous expliquer du coup c'est quoi le protocole. Donc vous allez prendre des médicaments, vous allez prendre des pilules, direct on a fait hop, attendez, on peut avoir 2 minutes là, parce que c'est quand même compliqué ce que vous venez de nous dire. Donc elle nous a laissé, on s'est serré dans les bras très fort, et après la doc est revenue et où là du coup on nous a expliqué le protocole. Donc on a dit vous allez prendre du coup des pilules puisqu'il faut que vous accouchiez. Donc ces médicaments vont arrêter une certaine hormone qui va permettre de pouvoir accoucher. Ah oui. Alors attendez, donc là ça veut dire qu'il faut qu'on accouche.
Il faut qu'on accouche. Car même si c'est effectivement Camille qui va vivre cet accouchement dans son corps, Gauthier est investi à 1000%. Pour les coparents, l'accouchement, encore plus lorsque le bébé est décédé, donne une impression d'impuissance. On fait ce qu'on peut, on accompagne comme on peut. Mais on reste un peu sur le carreau, comparé à la mère qui est bien plus exposée physiquement. Gauthier et Camille vont affronter cette prochaine étape à deux. Ils vont s'y préparer à deux. Avant d'accoucher, Camille préfère rentrer à la maison. Il téléphone alors à une sage-femme qui les suivait pendant la grossesse et elle les fait venir pour un rendez-vous en urgence le lendemain pour proposer notamment à Camille une séance d'acupuncture.
On a une sage-femme qui nous préparait à l'accouchement, génialissime. Et donc du coup, elle s'adresse vraiment à nous deux. La manière dont on préparait du coup cet accouchement, et même comme on avait vécu cette grossesse, c'est on est une équipe, quoi. Et l'autonomie, par exemple, bah, du coup, et on était déjà dans ce mode-là. Du coup, l'autonomie, Camille, elle peut en faire, mais c'est quand même mieux avec moi, en fait. Et donc, l'accouchement, c'est pareil. Elle peut le faire toute seule, mais c'est quand même mieux avec moi. Et je suis un partenaire, du coup, dans ça. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui accouche, mais on est deux. Enfin, moi, en tout cas, je suis là pour l'aider au mieux. Donc, du coup, je suis un peu dans cette posture de, bah, il faut que j'aide Camille, en fait. Et moi, ma douleur, bah, on verra un peu plus tard. Aussi parce qu'il y a l'injonction sociétale, quoi. C'est l'homme, il faut qu'il assure. Et donc, du coup, il y a ça aussi. Donc, du coup, la sage-femme s'adresse à nous deux, du coup, pour la préparation, et elle m'explique tous les points d'acupression, les exercices sur le souffle, méthode Bonaparte, enfin voilà, tout ça. Je me vois en partenaire et j'essaye de faire au mieux pour aider Camille et pour être là pour Camille dans ces moments. Et au CHU, on nous avait dit, si vous voulez, il y a une psychologue qui peut vous recevoir. Donc on fait le choix de effectivement prendre rendez-vous avec la psychologue. Donc le lundi, on apprend que Héloïse est décédée. On a rendez-vous le mardi soir. Et en fait, comme Camille commence à avoir des contractions dès le mardi midi, on s'est dit, on va faire le rendez-vous et après on va enchaîner, on va se faire hospitaliser. C'était important pour Camille de faire ce rendez-vous avec la psychologue pour apprendre à dire au revoir et pour pas avoir de regrets, de remords sur comment j'ai vécu ça et comment est-ce que je veux dire au revoir du coup à cet enfant, dire bonjour et aussi dire au revoir parce que ça va être important. Et la psychologue nous donne un super conseil qui est, a priori, enfin moi de mon expérience, je n'ai jamais vu de parents qui regrettaient quoi que ce soit. Donc si on, notamment de voir l'enfant tout de suite, de voir notre enfant tout de suite, j'ai pas vu un seul parent qui regrettait d'avoir vu son enfant tout de suite. J'ai pas vu un seul parent qui regrettait d'avoir pris des photos, par exemple. Tout ça, on commence à nous mettre à l'aise, on nous met à l'aise sur ça, sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Tout ce que vous ferez, si, du moment que vous le ressentez comme ça, ce sera ok.
Après ce rendez-vous, l'accouchement se profile. Camille devait accoucher dans une salle, à l'écart. Mais parce que le travail est plus rapide que prévu, cette salle n'est pas disponible et elle devra mettre au monde Héloïse dans une chambre moins préservée, depuis laquelle on entend les bébés des autres. Et puis il y a un problème au moment d'envisager la péridurale. Après quelques examens complémentaires, l'anesthésiste annonce que ce ne sera pas possible de la faire. Alors forcément, le rôle de Gauthier va être encore plus essentiel pour aider Camille à gérer cette douleur physique qui n'aurait jamais dû être aussi intense.
C'était très dur de voir Camille souffrir pour rien. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais pour rien, quoi. D'être dans la souffrance, de moi, je faisais de mon mieux pour l'accompagner pendant les contractions, avec les exercices sur le souffle, avec les points d'acupression, tout ça, mais c'était très douloureux pour moi de la voir et de pas savoir quoi faire pour elle. Un sentiment d'impuissance et que de souffrance, quoi. C'était vraiment que de la souffrance. Et donc on passe la nuit comme ça, donc avec des accouchements, enfin avec des contractions qui se rapprochaient, et sur les coups de 6 heures, on nous bascule en chambre d'accouchement, puisqu'on était en salle de travail, où là on nous dit, maintenant madame, il va falloir accoucher. Puisqu'en fait c'est la seule chose qui va vous soulager, puisque la péridurale, on n'avait pas droit à la péridurale et les autres, parce qu'il y a quand même une gestion de la douleur avec de la morphine, avec ce genre de choses, mais qui était clairement pas à la hauteur de la douleur qu'avait Camille. Et où là du coup on bascule donc en salle de travail et on se met en mode accouchement. Et où là, en fait c'est là où je me suis effondré. À partir du moment où, ok, ça devenait, là c'est l'accouchement. Donc Camille m'a regardé, elle m'a dit, t'es prêt à accueillir Héloïse? Non, mais a priori on n'a pas le choix. Donc voilà. Et là, j'ai commencé à pleurer beaucoup et c'était très très dur pour moi à ce moment-là. J'étais un peu en mode robot pendant toute la nuit. Il y avait des points d'acupression à faire, ça je gérais, ok, je faisais des choses, quoi. Enfin, je faisais les allers-retours pour la bouillotte, je faisais ce genre de choses. Donc, ok, j'étais un peu dans l'action. Et oui, à partir du moment où, du coup, la poussée est arrivée, là, je me suis effondré. Enfin, j'étais là pour Camille, mais c'est là où j'ai switché, et où ça a été très très dur. Et donc, du coup, Camille pousse et Héloïse arrive. Un moment d'apaisement pour Camille, du coup, de voir sa fille, de la serrer contre elle, de passer un peu de temps avec elle, quoi. Et moi aussi, bah, c'était bien sûr très douloureux, mais j'avais ma fille dans les bras, quand même. Enfin, protocole classique, on s'occupe de Camille. Donc moi, j'ai Héloïse dans les bras. On me dit, est-ce que je voulais la préparer? Ah bah ouais, bien sûr. Bah oui, je vais lui mettre sa première couche. Et oui, je vais la nettoyer. Et donc du coup, bah, je fais ça. Et moi, ça m'a permis, dans le processus, je pense, de deuil, d'être là pour elle et de la préparer du coup à je sais pas quoi, mais au moins d'être là pour elle et de pouvoir passer un peu de temps avec elle. Dès que je l'ai eu dans les bras, en fait, et je lui ai dit à quel point j'étais désolé pour elle, qu'on n'ait pas pu se battre plus que ça, que... Enfin, j'ai fait beaucoup de piano pendant 15 ans, et j'ai bloqué sur les mains d'Héloïse, parce qu'elle avait de très jolies mains, elle avait de très jolis doigts, et j'ai eu un moment de... Elle tenait pas ma main, mais elle avait ses doigts sur sa main sur mon doigt, et j'ai bloqué en me disant je pourrais pas lui apprendre le piano. En fait, je pourrais rien faire avec elle. Et où là, ça a été hyper dur. Y a eu cette phase pendant qu'on l'a préparée, pendant qu'on passait du temps avec, ou. C'était des beaux moments parce qu'on pouvait passer du temps avec elle, on pouvait la cajoler. Mais en même temps, ça me mettait en face de tout ce que je pourrais pas faire avec elle, quoi. Et on a passé, une heure et demie, deux heures avec elle, du coup, à se cajoler, à se dire qu'on l'aimait, en tout cas. Et qu'on serait ses parents et qu'on la remerciait d'avoir fait de nous des parents. Et qu'on la remerciait d'avoir été là et d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Et après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la violence du monde extérieur, couplée aux marques de soutien. Il y a le vide abyssal, et aussi de l'amour. C'est ça, le deuil périnatal. C'est tout à la fois l'absurdité des démarches à réaliser, mais c'est aussi cet ami qui vous prend par la main et qui vous propose de l'aide pour organiser des funérailles qui n'auraient jamais dû avoir lieu. C'est prendre ses marques dans une vie qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. C'est apprendre à devenir un couple endeuillé. C'est apprendre à devenir un couple de parents endeuillés. C'est apprendre à trouver sa place au sein de ce couple, à trouver sa place de père endeuillé aux yeux des autres.
J'ai beaucoup fait passer Camille d'abord dans les premiers temps de post-accouchement parce qu'elle avait besoin de ça. Et où du coup, on était tous les deux, enfin moi j'étais assez au clair avec ça, qu'elle passait d'abord, parce que c'est elle qui a le plus besoin d'aide en tout cas à ce moment-là. Et après, ça a été un peu plus mon tour. Moi, je disais, on était aussi très au clair sur le fait que, moi, j'ai besoin d'après-midi, en fait, où je vais aller prendre, on avait un couple d'amis qui venaient d'acheter une maison et qui avaient plein de bûches à aller faire. Alors, des bûches de bois. Activité idéale rêvée dans ma situation où t'as une hache, des bûches et tu vas faire des bûches. Qui permet d'évacuer un certain nombre de choses. mais où du coup on était assez au clair sur le fait qu'on a aussi besoin de temps pour soi et que c'est normal et que c'est ok. Donc du coup dans les premiers temps, moi j'étais arrêté pendant un petit moment, pendant un mois ou deux, pendant deux mois j'étais arrêté, et où du coup on avait que ça à faire, en fait on avait que s'occuper l'un de l'autre et s'occuper de soi. Donc ça, cette phase là ça a été assez pas facile, mais en tout cas dans notre couple ça a été on était toujours dans la communication. Là où après ça a été compliqué, c'est quand moi j'ai repris le travail, puisque du coup à un moment donné, moi j'ai repris le travail, Camille avait son congé maternité, et où là, à la reprise du travail, forcément on est en deux temps différents, quoi. Il y en a un qui va bosser et l'autre qui est à la maison, donc du coup forcément deux temps qui sont différents, mais où quand je continue à être à temps partiel, donc du coup ça s'est quand même plutôt bien passé. On n'a pas eu de tension particulière et on a eu la chance de beaucoup... Enfin, pas la chance, parce que ça se travaille. Hein. On était tous les deux aussi suivis psychologiquement, donc du coup, je pense que ça aide aussi. À gérer tout ça, on n'était pas tout seul, quoi. On savait que la communication était clé. Et du coup, on communiquait énormément. Et on était aussi OK avec le fait que Camille avait ses besoins et j'avais mes besoins et que c'est pas grave, en fait. Nos familles habitent dans le sud de la France. Donc on est descendu à un moment donné voir nos familles. Et même nos familles, ou nos proches, c'était, ils s'adressaient à Camille, quoi, pas à moi, pas comment moi j'avais vécu l'accouchement, le deuil, tout ça. Enfin, c'était ça qui était très violent, enfin que moi je percevais comme très violent, de systématiquement demander que comment va Camille. Ben ouais, mais moi aussi en fait j'ai perdu ma fille, moi aussi ma fille est décédée, et alors oui je l'ai pas portée, et il n'y a pas de comparaison à avoir entre les douleurs se comparent pas, mais c'est aussi dur pour les pères, et j'ai l'impression que l'entourage, alors après peut-être que c'est parce que c'est y a une injonction sociétale à ça, mais ouais, c'était dur pour moi l'entourage aussi. Et j'étais pas dans la pédagogie, non. J'étais là, j'étais hyper content quand ça arrivait, quand il y avait des gens qui me posaient la question, j'étais hyper heureux de partager et de dire comment moi je ressentais. J'étais frustré quand c'était pas le cas, et blessé quand c'était pas le cas, mais j'ai pas d'énergie en fait à expliquer pourquoi ça me fait chier qu'on me pose pas la question. Donc du coup non, je l'ai pas fait. J'ai juste été frustré et blessé. Mais après par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'il était hyper, c'est Camille encore une fois, qu'est-ce qu'elle est bien ma femme, qui a envoyé un truc aux proches, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comment accompagner, enfin il y a un livret de 10 trucs, comment accompagner, comment être un accompagnant quand on a des gens qui ont fait un deuil, qui ont perdu un enfant. Il y a 10 astuces, enfin bref. Je me rappelle plus exactement ce que c'est. Enfin bref, c'est en gros une checklist de choses que les gens peuvent faire pour aider, notamment envoyer de la bouffe, parce que ça c'est un truc hyper pratico-pratique. Et donc du coup ma sœur, on n'était pas hyper proche avec ma sœur, mais ça nous a énormément rapprochés. Toutes les semaines j'avais mon colis de charcuterie ou de bière ou de trucs. Enfin, il y a eu beaucoup d'attention comme ça. Donc il y a eu des choses pas chouettes, il y a eu d'autres choses hyper chouettes en tout cas.
Quand on a vécu une telle déflagration, il faut parvenir petit à petit à se reconstruire. C'est une page blanche sur laquelle il faut non pas réécrire l'histoire, mais écrire la suite. Ce sont des projets à deux qui viennent remplacer les projections à trois. Se reconstruire donc, et construire quelque chose de nouveau, d'inédit. À l'image de cette boîte en bois qui renfermera tous les souvenirs d'Héloïse et que Gauthier a fabriqué de ses mains. Un jour, il a eu l'idée de la construire lui-même, cette boîte. Alors il contacte une association près de Nantes qui va mettre tous les outils et les techniques à sa disposition.
Et j'avais besoin de créer un truc pour elle, quoi. Et je lui ai dit, je veux que ce soit le plus long et le plus chiant possible. Je veux pas de machine qui me fasse une boîte en bois tout de suite. C'est pas l'idée. Moi, je veux faire un truc beau et je veux le faire vraiment de mes mains jusqu'au bout. Et donc du coup, ben voilà, je passais entre 6 et 12 heures par semaine, du coup, dans cet asso. Et c'était un temps pour moi, c'était un temps long, j'avais un casque, j'avais mon casque anti-bruit. Et c'était un temps long de minutie, et puis pour Héloïse. Et c'était pour moi aussi une manière de la rendre vive, enfin de qu'il y ait quelque chose, quoi, qui reste d'Héloïse. Parce que j'avais des photos, mais moi je pouvais pas voir les photos, c'était juste pas possible, quoi. Et même encore maintenant je peux pas les voir. Et donc du coup voilà, cette boîte, j'ai passé au final 35 heures, je crois. Je suis parti de deux planches de bois moches en chêne que j'ai poncé, j'ai fait mes panneaux, j'ai fait tout un tas de trucs et assemblage à la main, j'ai tout fait à la main avec une, j'ai passé 8 heures, je me souviens d'avoir passé 8 heures avec un maillet et un ciseau à bois, et j'ai fini avec des ampoules, j'ai fini avec des courbatures. Mais c'était très salvateur pour moi. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans le processus de deuil, à ce qu'il y ait quelque chose pour que moi je puisse me rappeler d'Héloïse. Et je me rappelle du coup de montrer, du coup, bah, pas Héloïse forcément à mes collègues, mais ou à mes amis, mais à dire putain, bah, la boîte avance. Tu vois, et c'était un peu la fierté du papa, quoi, de dire ah, mais attendez, regardez la boîte, putain, regarde les photos, t'as vu, comment elle avance bien. Tu sais, comme elle est belle ma boîte. Ouais, il y a eu ça un peu, je crois, et qui moi m'a beaucoup aidé. Donc ouais, j'ai fait ma boîte, j'ai mis du coup un mois et demi, deux mois à faire cette boîte, et elle est encore là, et ouais, ça nous permet aussi de pouvoir se recueillir. Enfin tu vois, c'est un truc où on a tous les souvenirs du coup d'Héloïse, on a ses doudous, on a des photos, on a différents trucs qui nous rappellent. On avait commencé une liste de naissance, donc on a gardé quelques trucs de la liste de naissance. Du coup, Camille lui avait acheté son premier livre, où on se disait qu'on allait lui lire en en réanimation, enfin, tout ça, tous les trucs qui nous rappellent du coup Héloïse. Voilà. Donc, ouais, assez salvateur, le travail manuel. Et puis, donc, on est parti une semaine et demie au moment du terme. Aussi parce qu'on voulait pas être là, enfin, on voulait pas être chez nous, c'était pas possible pour nous. Et c'était des moments, du coup, bizarres de, ben, on passe du bon temps ensemble, ou on essaye de passer du bon temps ensemble, et en même temps, on devrait pas du tout vivre ce genre de choses. Enfin, c'est pas du tout ce qui était prévu. Et aussi, à ce même moment, on avait dit, oh, non, okay, on a besoin de changement, donc on a décidé de visiter des maisons pour déménager et pour changer de vie. On habitait dans le centre, on était des citadins. On avait besoin, en fait, de changement. Donc, au début, ce qui était censé être juste une occupation de « ça va nous faire penser à autre chose », ben, ça s'est rapidement tourné en « non, mais elle est vraiment bien, cette maison, on s'y voit vraiment bien ». Et oui, il y a eu ces moments de... on est content, enfin, il y a une certaine joie, enfin, c'est pas de la joie, mais un contentement ou des choses qui sont sympas, des projets, en fait. Se projeter sur autre chose, notamment avec une maison. Des moments où, ah ben ouais, c'est cool de vivre ça, et en même temps, mais en fait, on ne devrait pas du tout vivre ça. Donc, ouais, des oscillations, en fait, entre, ah, c'est chouette ça, et en fait, dans la seconde d'après, ce truc de, mais c'est pas ce qu'on devrait faire. On devrait pas en être là. Et on a eu tout l'été ça où se dire ah bah oui ok là on est en terrasse, on boit des coups et en même temps on devrait être en réanimation en fait. À ce moment-là précis, Héloïse devrait être en réanimation et on devrait être avec elle. Et ça nous a pas quitté pendant un petit moment ouais. Ce truc de on est content, on vit un bon moment et en même temps bam direct après bah oui mais c'est pas du tout ça qu'on devrait vivre. Et moi je l'ai vécu comme ça ouais.
Dis, aura-t-on un jour un autre enfant? Un deuxième enfant? C'est la question que se posent beaucoup de couples après un deuil périnatal. Pour Gauthier et Camille, c'est une évidence. Leur couple est solide, ils ont envie de vivre cela ensemble. Et très rapidement, au mois de juillet, Camille est de nouveau enceinte. Apprendre à vivre le deuil tout en essayant de se projeter dans une nouvelle vie, c'est la grossesse d'après qui commence.
J'avais pas du tout réalisé qu'est-ce que ça voulait dire gérer, vivre une autre grossesse. C'était très compliqué pour moi de me mettre dans le match de cette grossesse. Et je pouvais pas être présent. Là, on a vécu des choses très différentes. Parce que Camille, elle pouvait pas... c'était dans son corps. Donc moi, c'est facile de pas toucher un ventre. Elle, c'est plus difficile de, de faire abstraction du fait qu'elle soit enceinte. Et ça s'est télescopé aussi avec le compte-rendu de l'autopsie d'Héloïse. Qui moi était très très dur et dans les temps après j'ai eu l'impression de faire un deuxième deuil, de perdre une deuxième fois ma fille parce que c'était le dernier jalon en fait qui la concernait, c'était la dernière fois qu'on allait parler d'elle ou en tout cas enfin qu'il y avait quelque chose qui me raccrochait. Camille s'y est mis beaucoup plus rapidement que moi dans cette grossesse. Moi ça a été beaucoup plus tard, ça a été en décembre janvier quoi où je me suis un peu plus mis j'ai éprouvé un peu plus de joie à l'idée d'accueillir cet enfant parce que j'étais aussi je me disais que cet enfant il méritait le meilleur et que il méritait la meilleure version de moi et c'était pas le cas en ce moment. J'étais encore suivi et mais aussi j'étais bienveillant avec moi dans le sens où en fait j'étais encore debout, j'étais pas au fond de mon lit toute la journée. Et en fait déjà rien que ça, c'était cool. Il y a des papas qui mettent 9 mois, même sans vivre ce que j'ai vécu, à se mettre dans le match de la naissance, et c'est au moment où on leur met le bébé dans les bras que ça devient un peu réel. Du coup, essayer d'être un peu bienveillant et être aussi lucide avec le fait que j'avais besoin de ce temps pour moi, parce que sinon, ça, je pourrais pas être là pour elle et pour cet enfant. Cette différence de tempo, ça a été, il y avait des moments où c'était facile. Il y avait des moments où un peu moins parce que bah forcément elle voulait que je sois content et que je sois dans le game de cette grossesse quoi. Donc il y avait des fois c'était facile, il y avait d'autres fois c'était un peu moins facile, mais globalement on était toujours dans beaucoup de communication. Donc du coup ça s'est quand même plutôt bien passé et on avait repris des séances d'autonomie parce que c'était pour moi un jalon qui me contraignait à être présent et à essayer d'être là. Donc c'était pas forcément avec beaucoup de plaisir que j'y allais, avec beaucoup d'entrain, mais au moins ça me forçait un peu à être présent pour la grossesse. Et en fait, apprendre que ça a été un garçon, ça a été dur pour moi, parce que moi, je voulais toujours une fille. J'ai toujours envie d'avoir une fille. Mais en fait, assez salvateur, parce que du coup, j'ai dû me décentrer. Et c'est notre sage-femme la sage-femme qui nous avait préparé à l'accouchement et qui nous repréparait du coup pour ce deuxième accouchement et qui nous a dit un truc qu'on nous avait jamais dit mais qui était c'est peut-être mieux pour lui. On nous avait dit c'est peut-être mieux pour vous que ce soit un garçon et pas une fille comme ça nanana. Oui, mais nous en fait on s'en fout. Enfin, moi je veux une fille et j'ai une fille mais elle est décédée donc voilà. Et en fait le fait que elle nous dise mais c'est peut-être mieux pour lui pour cet enfant parce que lui, du coup, c'est un garçon, donc il se posera peut-être moins de questions. Est-ce que comment il se positionne par rapport à Héloïse? En fait, ça m'a aidé à vachement mieux vivre, la grossesse et la fin de grossesse.
Et au mois de mars 2022, Gauthier, le papa d'Héloïse, devient le papa de Félix. Le papa d'Héloïse et de Félix.
J'ai pris du temps pour accueillir. J'ai pris 2 mois et demi. De congé pour bien l'accueillir et pour passer du temps avec lui et créer un lien. Et c'est que du kiff. Ben ouais, un bonheur infini, quoi. C'est des moments magiques. Magiques de me dire, et il est là, en fait. Et donc, ouais, la rencontre, magique. Ouais, magique. Il a pleuré rapidement, donc... Il était beau. Il est toujours beau, mais il est vraiment très beau. Très, très beau, cet enfant. Et il était là, il était en forme et on l'a gardé en peau à peau avec nous pendant 10 heures et c'était un kiff infini. Ouais, cette rencontre, c'était cool de lui dire, hey, je suis ton père, coucou. Et je sais la chance que j'ai d'avoir le luxe de changer une couche à 3 heures du mat. Et en même temps, c'est parfois douloureux de se dire que tout ce que je fais avec lui, tout ce que je découvre avec lui, je le découvrirai pas avec Héloïse. Moi, je me suis senti père. J'ai un souvenir vif de me sentir père à l'annonce de la hernie diaphragmatique d'Héloïse. En une journée, en fait, la vie bascule. Je passe de jeune cadre dynamique plein d'ambition à, en fait, c'est plus du tout la question. La question, la priorité, c'est ma famille et c'est ma fille et c'est mon enfant et je vais tout faire en fait pour cet enfant. Donc j'ai eu un vrai sentiment de je suis père à ce moment-là et l'important c'est les proches, c'est la famille et c'est mon enfant et je ferai tout pour cet enfant. J'ai des amis qui sont pères, tout ça, mais je m'étais jamais trop questionné sur quel genre de père je vais être. Je sais que je voulais être hyper présent et déjà c'était le cas avec Héloïse. Déjà je m'étais dit je prendrais du temps pour elle. Du coup, après, je prendrai encore plus de temps pour elle parce qu'elle va avoir besoin d'encore plus de temps. Et là, je m'offre ce luxe avec Félix de prendre du temps pour lui. Je sais la chance que c'est, en fait, du coup, de passer du temps avec Félix et de faire ce matin 1 heure de gousi-gousi avec lui, de lui montrer tout, de lui parler, de lui chanter Stand By Me en long, en large, en travers. Enfin, voilà, je sais le luxe que c'est et la chance que c'est. Et je pense pas que j'aurais eu conscience de ça si j'avais pas traversé ce que j'ai vécu, effectivement. S'il y avait pas eu Héloïse, si effectivement j'avais pas été le papa d'Héloïse, je pense pas que je serais le père que je suis aujourd'hui pour Félix.
Cet épisode touche à sa fin et je remercie Gauthier de nous avoir livré son témoignage, d'avoir partagé avec nous l'histoire d'Héloïse, l'histoire de Camille, l'histoire de Félix, l'histoire de sa famille. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire et réaliser cet épisode. Alors si vous voulez offrir à ce travail plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.